c'est Leslie John au couloir en numéro 2. Allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien, Supermarket, je ne dis rien.
La c'est le moment, entière. C'est l'instant. Alex, la France entière.
Parker inside, pretty play from Tony Parker.
La qualification pour la demi-finale de la Coupe du Monde au bout du soulier. Alors je ne regarde pas. Allez mon petit bonhomme.
You t'as dit apéro.
Allez lui. Allez mon petit bonhomme. Ouais.
Allez, c'est reparti. Bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est une nouvelle émission de l'Instant Sport. Vous avez bien sûr reconnu ce jingle auquel vous êtes habitués. On vous souhaite tout d'abord une très bonne année à tous, car c'est la première émission de l'Instant Sport en 2015, le 9e magazine. Une bonne année également à Patrick, ça va bien ?
Ça va super bien et bonne année à tout le monde, à toutes et à tous.
Alors, les fêtes se sont bien passées ?
Très bien, bon, une reprise un peu compliquée au niveau de mon équipe favorite, mais bon, je crois que tu as prévu d'en reparler.
On va en parler tout le long de cette émission. Un réveillon du côté de Rieutor, de Châteauneuf.
Oui, Rieutor de Randon, salle des fêtes, plus de 150 personnes, une super ambiance, un bon groupe, et voilà, couché 14h du matin, tranquille, moins 7 quand on est sorti, ça a permis de réveiller.
Ça rigote.
Ça, voilà, ça réveille, et donc une descente tranquille jusqu'à Mende, et tout s'est bien passé.
À pied. À pied, on le précise. Salut Julien, bonne année. Salut Laurent, ça y est.
Oui. Oh là là.
Interroll.
Catastrophe, ça y est.
Alors, bonne année à toi et à mes chers collègues autour de la table et puis à tous nos auditeurs et surtout à nos auditrices.
Et oui, t'as passé de bonnes fêtes toi aussi ?
Ouais, très bien. Ouais.
Très bien.
Ouais, ouais.
T'aimes la nouvelle déco par terre du studio ?
Ouais, super. Super, un joli poster là, de la victoire de Montpellier, bravo.
Voilà, contre Marseille, on reviendra dessus. On va en parler à peu près toutes les 7 à 8 minutes. Vu qu'on a une heure d'émission, ça risque
de déco, on peut t'appeler Valérie quoi, cet après-midi.
Exactement.
Ce sera un peu un running gag.
Ouais, un running gag, c'est le titre qu'on pourrait donner au match de ton équipe. Salut Luc.
Bonjour à tous.
Dès ce week-end, les play-downs ont commencé, on va revenir dessus. T'as passé de bonnes fêtes aussi ?
Oui, très bien.
Il n'y a pas digéré encore.
Un peu pas digéré. Il y a beaucoup de choses que je n'ai pas digérées, mais non, ça va. Les fêtes, ça allait.
Allez, aujourd'hui, pas d'invité, vu que l'on reprend juste cette émission après une pause de 3 semaines. Donc, on a énormément de résultats à commenter. Et on va commencer par le handball en National 3. Alors, l'équipe masculine n'a pas joué. Elle reprend ce samedi à Valence. Pour rappel, l'équipe est dernière avec 13 points. Les féminines ont joué par contre en régional poule basse. Elles se sont imposées face à Bellegarde 25-15. Au classement, elles montent à la 2e place derrière le MUC qui a 31 points. Notre spécialiste handball, Laurent.
Alors, le spécialiste handball, donc, je crois que tu as tout dit. Donc, l'équipe féminine qui rattaque pied au plancher cette deuxième partie de championnat. Donc, elles étaient 5e avant cette journée. Puis. Les défaites de Lunel, de Bellegarde, donc elles sont passées du coup deuxième à 5 points du MUC de Montpellier. Donc bonne continuation aux filles, très bonne ambiance a priori, et puis on leur souhaite de continuer leur chemin.
On n'a peut-être pas précisé un truc chez les garçons, je ne sais pas si tu as prévu d'y revenir, mais non. C'est qu'ils ont changé d'entraîneur en cours de route.
Laurent comptait en parler.
Ouais, mais c'est pas grave.
C'est pas grave, vas-y.
C'est Pascal Daudet qui a repris l'équipe. Et voilà, on lui souhaite bien du courage et beaucoup de détermination pour rebooster quelques joueurs, enfin tous les joueurs bien sûr, et essayer de gagner des matchs. Voilà, c'est ça. Maintenant, il faut gagner des matchs.
Pascal Daudet qui a repris l'équipe juste après la dernière journée en championnat avant la trêve. Donc, c'est une nouvelle défaite du MGC. Contre Conflans. Non, ça, c'est le volet.
C'est le volet.
Contre Fontaine.
Contre Fontaine, exactement, qui était un match important. Et qui s'occupait des jeunes, hein, jusque-là, Pascal Daudet.
Oui, c'est un ancien joueur.
Il s'est occupé de l'équipe première à un moment aussi, à une période.
Voilà, du coup, le volleyball qui est dernier au classement, mais
le handball.
Le handball, merci Ludo.
On a du mal en 2015.
Le handball qui est le club qui est dernier, mais qui a encore les cartes à main pour se rattraper, je crois.
Voilà. Ouais. Alors officiellement, la raison pour laquelle Vincent De Vulder a été mis de côté, c'est que ses activités professionnelles lui permettaient plus de s'impliquer.
Ouais, j'y crois pas trop, mais on va donner cette version officielle.
Par rapport à l'équipe de National 3.
Le choc psychologique, Patrick.
On le sentait un peu venir au sein de ce club de hand. Bon, il fallait faire quelque chose. Et bon, c'est vrai que c'est compliqué en cours de saison de changer toute l'équipe dans tous les sports et à n'importe quel niveau qu'on évolue. Donc c'est vrai que la solution qui s'impose souvent, c'est de changer de coach. Donc bien sûr, comme tu le dis, on espère un choc psychologique. Mais bon, c'est vrai que pour revenir à ce que je disais au début, on sentait presque ce changement inéluctable. Si on se souvient, quand on avait reçu nos invités, j'avais posé la question, et bon, même si j'ai pas vu un quart de match depuis le début de la saison, mais quand même, par rapport à tous les échos qui m'étaient parvenus, on sentait quand même qu'il y avait beaucoup moins de détermination, de lien, de cohésion, de d'esprit d'équipe au sein de ce groupe. Et c'est vrai que nos invités m'avaient pas démenti sur ce point-là, même s'ils n'avaient pas employé les mêmes termes que moi. Donc on sentait quand même un peu une équipe qui se laissait aller et qui était moins concernée que la saison précédente. Donc voilà, moi je dois dire que personnellement ça m'a pas surpris ce changement de coach. Voilà, et j'espère que ça sera vraiment bénéfique, parce que le handball amende mérite amplement de jouer à ce niveau de N3. Et bon, en plus si on a cette poule qui est quand même plus abordable pour eux, et ça serait à mon avis quand même un énorme gâchis si l'équipe se maintenait pas. Alors après il faudra voir si ce changement va rebooster tout le monde, parce que c'est vrai que Luc en a souvent parlé. Le problème de cette équipe, c'est qu'il n'y a pas beaucoup, de joueurs qui s'entraînent vraiment pendant toute la semaine. Voilà, est-ce que ça va rebooster, est-ce que ça va donner un coup de fouet, il faut l'espérer pour se maintenir. Quoi.
Après, faut aussi préciser que Pascal Daudet, qui s'est longtemps occupé des jeunes au MGC, a eu pas mal de joueurs qui compose l'équipe de National 3 cette saison. Il y en a eu pas mal sous ses ordres, notamment donc dans les catégories de jeunes. Donc voilà, est-ce que ça aura un impact ou pas, je sais pas.
Voilà, et
on saura très vite
l'équipe qui joue à Valence.
Voilà, dit, donc, ouais. Valence, équipe de haut tableau. Donc,
de haut de tableau, ça risque d'être compliqué.
Une entrée en matière en plus à l'extérieur qui sera pas simple.
Voilà. Avec le retour, j'ai entendu dire, du gardien des saisons précédentes,
Dragoche,
Lazare. Donc avec toute son expérience. Et
qui
puis,
est un ancien international roumain.
Voilà, qui peut être un cadre de l'équipe. Peut-être c'est ce qui manquait ce début de saison, un joueur un peu plus âgé, un peu plus d'expérience. Et...
Ouais, après Olivier Cavalier qui était dans les cages, qui était revenu lui aussi, oui. Qui était parti à Aurillac et qui était revenu cette saison, il était pas mal dans les cages. Enfin, c'est un gardien qui est pas mal. Je sais pas. Après, je sais pas vraiment si c'est de là que venait le problème ou pas.
Non, sûrement pas, mais peut-être un leader. Quoi. Moi, je le vois
ouais,
plus.
Ouais. Ouais, c'est possible.
Dragos comme un leader.
Ouais, il faut un changement d'état d'esprit, c'est surtout ça l'essentiel. Et voilà, c'est sur ça l'équipe tout entière doit changer d'état d'esprit et vraiment. Pour enclencher des victoires, maintenant il n'y a plus de questions à se poser. Il faut enclencher les victoires, sinon ça sera bien sûr très compliqué pour se maintenir.
Tout à fait.
Voilà, allez, avant de changer de sport, on rappelle donc les filles qui gagnent à Bellegarde 25-15, c'est l'info de ce week-end, et qui sont secondes au classement derrière le MUC. Bravo à elles. On continuera à les suivre. En rugby, le RCML s'incline à Sigean 41-23 et se retrouve dernier du classement, comme les garçons en balle. Alors Patrick, après un bon début de championnat, Mende rentre dans le rang et même plus, vu que l'équipe se retrouve à la dernière place.
Ben oui, c'est vrai qu'on sentait un peu un glissement depuis quelques semaines, même s'il y avait des défaites qui étaient quand même assez serrées, avec des matchs qui auraient pu basculer du côté mandois. Bon là c'est vrai, plus de 40 points, bon même si ça marque 20, ça fait quand même 20 d'écart. Bon, là-bas, un déplacement, on sait que c'est toujours compliqué, il y avait du vent, etc. Bon, voilà, il faut que les rugbymen aussi se reprennent et remettent la marche avant comme en début de saison, puisqu'ils ont gagné les deux premiers matchs et depuis, ben, il y a plus une seule victoire. Donc c'est compliqué, et bon, une dernière place, on voit, les années précédentes, c'était pas comme ça. Il y avait vraiment des équipes de haut tableau et vraiment des équipes de bas de tableau. Et puis là, on se rend compte finalement que toutes les équipes se tiennent. Et si tu regardes le résultat de hier, on voit que Bédarieux, qui était derrière Romande, s'est imposé contre Fleury, qui est second. Bon, mais ça, les années précédentes, tu le voyais pas. Et bon, c'est la preuve que cette année, il y a un championnat honneur qui est hyper serré avec des équipes qui se tiennent vraiment toutes. Donc ça ajoute aussi à la complexité de la tâche pour les Mandois.
Ouais, d'autant qu'on se souvient qu'ils ont commencé la saison par 4 matchs à domicile, je crois. Ce qui veut dire que pour ces matchs retour, ils vont avoir 4 matchs à l'extérieur. Ça risque, en plus de leur compliquer la tâche, en plus de ce que disait Patrick, avec un championnat, il y avait, c'est vrai que l'année dernière, il y avait souvent le championnat du haut et le championnat du bas. Là, le niveau s'est quand même très très fortement resserré, je pense.
Mais bon, au niveau du classement, je vois que Mende est 9e sur 9, mais le 6e, Plage d'Orbe, n'est qu'à 4 points. Donc au rugby, 4 points, c'est dérisoire.
Ouais, c'est rien, c'est une victoire.
C'est une victoire avec bonus.
Donc, ouais. Bonus, là, tu marques 5 points.
5 points. Donc voilà, tout n'est pas perdu pour l'équipe de rugby.
Non, le plus inquiétant, c'est la spirale négative. Dans laquelle ils sont rentrés depuis quelques semaines. C'est surtout ça, c'est qu'ils n'ont pas réussi à accrocher un bon résultat depuis quelques temps. C'est un peu
depuis qu'ils sont venus. Locaux,
c'est ce que j'osais pas le dire, mais c'est un peu ça, ouais.
Ouais, on va plus inviter d'ailleurs. Peut-être. Faudrait inviter les féminines.
Les féminines, c'est intéressant,
les féminines au rugby.
Alors, c'est-à-dire qu'elles
n'ont pas de championnat.
Elles n'ont plus d'équipe cette saison.
Donc, on ne les invitera pas. Alors.
Voilà.
Alors, peut-être les jeunes.
Oui, pourquoi pas.
Les jeunes. Ils sont pas mal, les jeunes, non?
Oui, ouais, il y a des bons jeunes. Oui, il y a des bons jeunes.
Allez, au volet, on rappelle le classement du MVL en poule élite. Fréjus, premier avec 27 points. Je te laisse continuer, Laurent.
Ilac est deuxième avec 22 points. Vendée, les Herbiers, c'est ça, est troisième avec 19 points. Man Volleyball, quatrième avec 17 points. Confin, 5e avec 14 points. Et Grenoble, 6e, 13 points. Mérignac 7e, 11 points, et Brive dernier, 9 points.
Alors donc on est 4e, 17 points, on est en passe de se qualifier pour les play-downs. Prochain match, les play-offs, pardon.
Vraiment du mal aujourd'hui.
Play-down, c'est le basket.
C'est ça.
Autant pour moi. Et donc prochain match samedi chez la Lanterne Rouge à Brive. Donc on peut espérer gagner ce match. En attendant ce week-end, les garçons jouaient le 8e tour de la Coupe de France.
Ouais, alors, excuse-moi, combien de matchs il reste, Ludo, là, pour finir
3.
Trois matchs.
Donc on peut terminer dans les quatre premiers. Hein.
On peut peut-être parler de ce match à Brive la semaine prochaine. A priori, les Mandois seront attendus hein, parce qu'il y a eu un match de Coupe de France au milieu, une défaite des Brivistes et je crois que c'est toi, hein, Patrick, qui avait interviewé le coach de.
Non, j'étais pas.
C'était pas. Enfin bref, le coach de Brive.
Je crois que c'était Laurent.
Le coach de Brive qui
était remonté.
Était remonté et qui n'attend qu'une chose, c'est ce match de championnat contre le Mans Volleyball.
Pourquoi il était remonté?
Parce qu'il a pris une fessée et que ça lui a pas plu.
Mais bon, voilà, c'est pas pour autant.
C'est pas pour autant. Mais
gagner,
mais faudra faire attention à cette équipe.
Tu sais, Marseille était remontée d'avoir perdu pour l'inauguration de leur match contre Montpellier au match retour et ça n'a rien donné de mieux. Hein.
C'est vrai.
Quand t'es moins bon, hein, tu peux être remonté, ça sert à rien. Alors le MVL donc a joué en Coupe de France ce week-end, 8e tour,
8e de finale.
8e de finale. 8e de finale à Cagnes, actuel deuxième de sa poule de National 2. Donc le MVL s'impose 3-7-1, donc un match qui était quand même pas gagné d'avance, Patrick, parce que cette équipe de Cagnes, elle a recruté beaucoup d'ex-joueurs de Ligue B, un entraîneur qui était ex-international français, Thierry Glowatz. comme entraîneur, une bonne équipe quand même.
Bon, Cagnes-sur-Mer, il y a un super hippodrome. D'ailleurs, si vous êtes dans le coin, je vous conseille d'y aller. Vous allez passer un super moment si vous aimez les courses.
Plaisir d'amour dans la troisième.
Voilà. Si vous aimez les courses, si vous voulez passer un moment, il y a un super resto. Il y a des buvettes.
On peut jeter une pièce au casino sûrement à côté.
Donc, Cagnes-sur-Mer, comme tu l'as dit, c'est bien sûr c'est à Côte
d'Azur.
Ce moment,
vous étiez sponsorisé par l'office de tourisme de Cagnes-sur-Mer.
À côté de Nice, donc voilà, c'est plus facile pour recruter après des joueurs qui évoluent au niveau supérieur. Donc c'est vrai qu'ils ont recruté pas mal de gars qui étaient au niveau professionnel. Bon, Nice a été en Pro A, bon maintenant
ils sont
en Ligue B. Bon, donc c'était compliqué, mais bon, on était quand même assez confiants parce que au volleyball, tu parlais du foot. Bon, tu vois Grenoble qui élimine Marseille, qui est leader de la Ligue 1, Grenoble qui est en CFA. Bon, il y a trois divisions d'écart.
La logique est respectée.
Bon, non, voilà. Mais c'est généralement.
Au volleyball, deux secondes, ouais. Je termine. Au volleyball, bon, tu as par exemple la CFA, ça correspond à la N2. Bon, mais tu n'auras jamais un club de N2 qui battra un club de Ligue A.
Pareil en basket, ouais.
Bon, c'est impossible, c'est impossible.
C'est un peu inhérent à tous les sports de salle où généralement l'équipe qui évolue dans la supérieure, ouais. Très rarement, même si après, sur le hand, sur le basket, il y a des systèmes de rattrapage de points, là, parce que par exemple, quand il y a au basket, s'il y a une ou deux différences, divisions d'écart, l'équipe la plus faible part avec des points supplémentaires, c'est-à-dire 12 points.
Ah bon?
Ouais, ouais, et voilà, bah, pour essayer d'équilibrer un peu les niveaux.
Pareil, donc tu pars avec 4-5 buts ou 10 buts de retard.
Ouais, ce qui prouve bien qu'il y a vraiment très très peu de surprises, et c'est à peu près la même chose au volley.
D'ailleurs, donc, je crois que Grenoble avait 2 buts d'avance aussi contre voilà. l'OM.
Donc c'est pour ça que bon, Mende est en élite, ce qui correspond à la N1. Cagnes est quand même à N2 cette année. Donc il y avait bon, certes un niveau d'écart. Il n'y a pas 2-3 niveaux d'écart, mais il fait quand même une division d'écart. Donc bon, voilà, la logique a été respectée. Mende a gagné 3-1. Bon. Tu perds en 7 parce que tu te déconcentres, parce que tu mènes 2-0. Bon, on peut pas dire que le match a été hyper serré, que Cagnes a vraiment eu l'occasion de se qualifier. Mende a toujours été devant, a montré sa supériorité. Bon, en plus, il faut signaler quand même que le central, un des centraux titulaires de Olivier Fabre s'est blessé juste avant un match amical contre Alès. Il s'est retourné le doigt. Bon, il a une attelle, peut-être une fracture. On ne sait pas s'il va jouer contre Brive la semaine d'après. Donc, il avait fait le déplacement à Cagnes, mais bon, bien sûr, il n'est pas rentré. Il a absolument pas joué. Il fallait le préserver. Donc, ça fait quand même un joueur de moins. Donc voilà, et ça a quand même pas empêché Mende de s'imposer 3-1 sans souffrir. Il y a une division d'écart au volley, il y a quand même un gouffre.
Patrick, peut-être tu peux nous renseigner. La Coupe de France au volleyball, c'est par niveau ou c'est
oui.
Ou alors là maintenant il
oui.
Y a les équipes.
Non, tu as deux coupes de France. Tu as la Coupe de France des pros de pro. Et des N1 qui était là auparavant. Et puis après tu as la Coupe de France des N1 qui était pas là ou qui était en pédant. Enfin bon, voilà, comme Mende qui monte. Donc Mende ne pouvait pas faire la Coupe de France des pros. Donc ils font la Coupe de France des amateurs. Et donc c'est pour ça qu'ils sont maintenant qualifiés pour les quarts de finale.
C'est la même chose. On parlait tout à l'heure, c'est la même chose au hand aussi où il y a une Coupe de France,
c'est nul.
Voilà, donc c'est pour ça qu'il y a une année, on s'en souvient tous. Mende a eu la chance de recevoir Tours, donc Tours avec l'époque, il y avait encore Erwin Ngapet qui est le meilleur joueur, qui sera peut-être le meilleur joueur de tous les temps du volleyball français. Il était venu à Piencourt, le gymnase était comble, c'était la Coupe de France. Mais bon, cette année-là, Mende avait pu faire la Coupe de France des professionnels. Cette année, ils n'ont pas pu la faire.
Cette année, vous étiez en N1.
Voilà. L'année où vous avez une, donc vous avez pu faire cette Coupe de France des pros.
Puisqu'on parlait de Côte d'Azur, signaler que Kevin Velay, qui est un des fleurons de la formation mendoise, commence à faire ses premiers pas en Ligue B avec Nice et il a notamment joué juste avant contre Alès. Il a notamment gagné à Alès, donc 3-2 au tie-break. Et il est rentré, il a joué le tie-break, ce qui pour un jeune joueur c'est quand même une preuve de confiance. Et il y a Julien Bourdon aussi qui lui joue beaucoup plus régulièrement.
Lui est titulaire par contre. Ouais.
Voilà,
pardon, je me suis trompé.
Julien Bourdon.
En demi-centre.
Central. Central. Ouais. Mais Julien Bourdon a signé un contrat professionnel. Bon, parce qu'il est quand même un centre de formation depuis plusieurs années, donc maintenant, ça y est, c'est fait, il a signé son contrat pro, et donc ben, Kevin, qui est pour sa première année, il fait partie, lui, du centre de formation, donc en tant que stagiaire.
Il a 20 ans. Hein.
La finalité pour lui aussi, c'est l'année prochaine ou dans deux ans, de signer aussi un contrat pro à Nice ou ailleurs, parce que bon, ouais. Cette année, il a signé à Nice, mais il avait bien d'autres contacts, en particulier, peut-être que son père, peut-être en vouloir que je le dise, mais bon, c'est plus un secret maintenant. Il était contacté par Nantes qui évolue en Ligue 1, donc il a préféré choisir Nice pour tout un tas de raisons. Oui. Mais s'il avait voulu, il aurait signé à Nantes et il serait maintenant en Ligue 1. Bon, Ligue 1, Ligue B, c'est
peut-être bien pour sa progression de franchir un palier, d'y aller par palier, de passer par Nice.
Quel âge il a?
Il a 20 ans. Il a 20 ans. Il a 20 ans.
Laurent signe un contrat pro avec Ricard aussi.
Oui. Mais d'ailleurs, pour parler de Kevin, il a des week-ends hyper chargés, puisque donc il joue, comme Luc l'a dit, il joue avec l'équipe 1 en Ligue B en pro. Donc là, ce week-end, il recevait Martigues. Et puis après, il joue aussi avec la réserve en N2. Et donc là, ce week-end, ils ont joué à Palma. Donc il se couche tard le samedi soir. Parce que la pro joue le samedi soir, et puis le dimanche matin, aux aurores, il repart en déplacement, et ce week-end, ils étaient à Palma, donc à Toulouse, donc Nice-Toulouse, et ben ça fait plus de 1000 bornes aller-retour, donc à minibus, ça fait un week-end chargé.
Ça fait un week-end chargé,
et surtout quand tu t'entraînes tous les jours, puisqu'ils s'entraînent avec la pro s'entraîne tous les jours.
Ouais. Ça fait avoir la prime du samedi et la prime du dimanche.
Voilà.
Ouais. Non, mais surtout, c'est bien, ça lui fait de l'expérience d'être dans le groupe, parce qu'il s'entraîne avec le groupe pro, donc c'est ce qui est intéressant.
À noter pour le MVL en Coupe de France, que les moins de 20 garçons et les moins de 17 filles sont qualifiés également. Donc ça, il faut le dire, hein, parce qu'il y a une très très bonne...
Il y a un travail en profondeur depuis des nombreux... de nombreuses saisons dans toutes ces équipes de jeunes. Alors c'est vrai qu'après il y en a qui vont dire c'est frustrant parce que finalement ces jeunes tu les vois pas surgir après en équipe 1. Bon, tu as vu surgir on vient d'en parler Kevin. Bon, voilà, qui est l'exemple le plus marquant. Et bon, après voilà, c'est vrai qu'il y en a quelques-uns comme là le jeune Sarus qui s'entraîne aussi avec l'équipe 1, qui fait du banc, et bon, voilà. Mais bon, c'est un peu frustrant parce que c'est vrai qu'au final, tu vois pas un joueur vraiment formé au club surgir et.
Il y en a un autre, hein, qui est, je me rappelle plus du tout son nom,
anecdote.
Qui a commencé cette année en élite et qui
Costa,
sort.
Patrick Costa, bon. Voilà.
Et qui est issu du centre de formation aussi. Deux joueurs dans un effectif de 12, plus Kevin, plus Anthony Velay, qui est aussi ça fait quand même trois joueurs issus du club, c'est pas mal.
Non, mais ce que les dirigeants attendent, et bon, c'est vrai que moi, je suis de leur avis aussi, ils attendent ça, vraiment un jeune qui a fait 10 ans d'école de volley à Mende, et puis boum, voilà, tu peux le mettre balancé titulaire à 1-1. Bon, là, c'est ce qu'ils attendent. Bon, voilà, j'espère que ça ira pour eux.
Il faut qu'il soit bon, mais pas trop bon pour pas partir.
Après, c'est toujours le problème que beaucoup de sports ont en Lozère, c'est-à-dire ce problème des jeunes qui vont partir faire leurs études, alors revenir. Bah, alors, soit ils peuvent rester à ce moment-là et ils peuvent continuer leur formation, soit ils sont obligés d'aller voir ailleurs ou d'avoir des cursus, des...
Il faut qu'ils arrêtent leurs études. Hein.
Bah, c'est ce qu'on leur proposerait, hein, nous, arrêter vos études.
Et oui.
Ça sert à rien de toute façon.
Oui, très bien. Allez, on passe à des choses sérieuses maintenant, avec en basket les play-downs qui ont débuté. On l'attendait depuis le début de cette émission. On dit les garçons, ils sont pas prêts, ils attendent les play-downs pour montrer leur vrai visage. Eh bien, ils ont perdu 62 à 49 à Moguio.
Ouais.
Luc, qu'est-ce que c'est ça? On attend, nous, avec Patrick et Laurent, depuis le début de cette émission. On s'est dit, ça y est, les play-downs commencent, bim, bam.
On n'a pas dit que les garçons avaient tout gagné dans les play-downs et qu'ils attendaient. C'est un match ils ont eu un trou.
Perdre 13 points, c'est pas non plus déshonorant.
Et puis contre une équipe qui a loupé les playoffs.
Qu'est-ce que ça vaut Moguio? C'est ça la question.
C'est une bonne équipe. Ils n'ont pas perdu beaucoup de matchs en première phase. Ils étaient troisième de leur pool, qui était plus relevé que celle de Mende. Et du coup, ils ont loupé les playoffs pour un match, je crois, sur la dernière journée aussi.
Ah d'accord. Donc c'est pas un des favoris, mais presque.
Voilà, ça fait partie des bonnes équipes. Après, le but, c'est d'en laisser deux derrière.
Ils sont pas derniers, parce que les PTT, ils ont un point comme eux, mais je sais pas s'ils ont pas déclaré forfait, j'ai vu 40 à 6.
C'est 0 point. Forfait, c'est 40 à 6.
Ouais, ils ont perdu 40 à 6 leur match, les PTT.
Non, parce que forfait, c'est 20-0.
Ah, donc.
J'en sais quelque chose. J'en sais quelque chose.
6 points.
Alors, Mende, Montpellier PTT, allez les voir au gymnase, ça va valoir le coup, ouais. À mon avis.
6-3.
C'est énorme, quoi. 6-3. Non. On peut se maintenir ou pas, Luc? Il y a Lunel. Alors, dans la poule, il y a Aigues Mortes, Moggio, qui ont 2 points, Alès, 2 points. Pays de Lunel, 1 point, Mende, 1 point, PTT, 1 point. Il faut battre Lunel et PTT.
Il faut battre Lunel, PTT. Je pense qu'Alès, c'est jouable aussi.
C'est un match aller-retour.
C'est un match aller-retour, ouais. Alors, c'est compliqué parce que c'est un calendrier un peu pourri, faut dire. C'est-à-dire que là, on les deux, c'est pareil pour les filles, hein. Il y a, donc là, c'était la première journée. On va jouer tous les week-ends jusqu'au 7 février. Après, il va y avoir un mois de trêve. Puis, 4 matchs, tout le mois de mars quasiment. Un mois de trêve et 2 matchs, donc le 25 avril et le 2 mai.
Et pourquoi?
C'est les vacances scolaires, l'histoire de vacances scolaires.
Ça ne dure pas un mois, les vacances scolaires.
Non, ça dure 15 jours, mais bon.
Je croyais qu'il y avait la CAN pour le basket.
Il y a la CAN aussi pour le basket. Du coup, voilà, ça fait un calendrier à trous et c'est pas évident, surtout quand
tu nous le diras, ce match contre PTT avec Ludo,
on va revenir.
Bien sûr.
Et Patrick aussi.
Mais Ludo, tu te posais une question par rapport au maintien. De toute façon, tu n'es pas débile, parce que même si ce sont les deux derniers, ils seront repêchés.
Oui, ils seront repêchés,
Oui, d'ailleurs, pour la petite histoire...
Cette année, ils ont été repêchés,
Alors, déjà, cette année, on a été repêchés, puisqu'on a bénéficié du forfait de Castelnau, et la Fédé, la Ligue, nous a invités à participer. Le BCM étant non plus le seul club lausérien, mais la seule équipe senior lausérienne du département. Ils sont donc de fait champions de Lauser et peuvent être inscrits.
C'est fini maintenant vu qu'il y a Marvejol.
Il y a pas d'équipe senior. Il y a une équipe à Marvejol, mais c'est que des jeunes. Et puis dernier point, c'est ce que je disais l'année dernière, les filles donc. Sont allés chercher leur maintien à Frontignan. L'équipe de Frontignan qui devait donc descendre, qui a joué un barrage pour se maintenir encore, qui l'a perdu et qui a fini par se maintenir parce que finalement ils ont été repêchés. Donc bon, il y a quand même moyen de négocier, mais après l'idée c'est de l'être sportivement.
Ouais, voilà. C'est vrai. Ouais. Non mais bon, pour trêve de plaisanterie, c'est vrai qu'on attend quand même cette première victoire parce que bon, depuis le début de la saison finalement il y a
C'est vrai, il n'y a pas eu de victoire.
Donc, après, on parle, tu as énuméré tout un tas de sports juste avant de parler de basket, mais il faut quand même, là, reprendre un peu notre sérieux et redire quand même que les moyens, qui sont octroyés à ces autres sports collectifs sont cinq communes en mesure avec ceux qui sont alloués au basket. Et bon, c'est déjà fabuleux d'avoir un club de basket ici à Mende. Et ils font des déplacements, ils vont quand même, ils descendent aussi dans le Languedoc, ils s'accrochent, ils sont là et il faut leur rendre quand même hommage par rapport à ça.
Et le basket, c'est pas le sport qui a le plus de licenciés en France, donc dans un département comme la Lozère, c'est d'autant plus compliqué.
Exactement. Alors, je pense qu'il n'y a pas de tradition,
même si le club a fêté ses 20 ans, c'est pas non plus.
Quand tu vois, quand tu parles de foot, tu parles de l'éveil mandois, tu reprends des photos, tu as un terrain de foot qui se trouve au Forail. Bon, ben, toute cette histoire, ce cursus, au basket, tu l'as pas. Et donc, moi, je vous dis, je vous le répète, ce qu'ils font aussi bien chez les garçons et chez les filles, c'est fabuleux. Et il faut leur rendre, tirer un grand coup de chapeau.
Je crois que je vais pas trahir un grand secret en disant que le club fonctionne avec une subvention de 5000 euros. De la mairie, et c'est à peu près tout au niveau des subventions. Donc voilà, faut faire tourner deux équipes seniors, des équipes de jeunes. Il y a en tout une petite centaine de licenciés.
Si tu avais 30 ou 35 000 de subventions, peut-être que tu peux prendre un naturalisé américain qui a même 45 ans, mais bon, il te manque 25 points par match et de suite, c'est plus la même équipe, quoi.
C'est ça. Après, des clubs de basket avec 30 ou 35 000, à mon avis, on n'a pas beaucoup dans cette division.
Ouais. Et puis de l'encadrement. Après de l'encadrement, hein, ça permet de recruter des encadrants aussi.
Allez, on va parler des féminines. C'est intéressant parce qu'elles n'ont pas gagné elles ont gagné des matchs pendant la première phase de poule, donc on les attendait. Elles perdent à Vergès 72 à 56. Alors les cartons, Luc, 18-17 pour Vergès, 22-10 dans le second, 13-16 pour elles et 19-13. Donc vous avez complètement craqué dans ce second carton.
Oui, on a craqué en fait un peu avant parce que il y avait plus 10 ou plus 12.
Pour vous, déjà
dans le premier carton, les filles de Vergès sont revenues. On a tenté un petit changement de tactique qui a visiblement pas marché.
Le coach, hein.
Ouais, non, mais tout à fait. On tente une défense individuelle qui n'a pas eu le résultat.
Mais pourquoi un changement quand on gagne plus 10 ?
Bonne question.
Quand tu gagnes plus 10, que tu ne changes pas et que tu te fais remonter et que tu prends 12-0, à un moment tu te dis, on va changer quelque chose, notamment en défense. Donc tu dis, vu qu'on avait énormément. Alors, on va essayer de ne pas faire trop technique, mais on avait énormément de mal à défendre sur les joueuses extérieures. Du coup, qui shootait à longue distance et qui était plutôt à droite à ce niveau-là, on va tenter une défense individuelle pour justement mettre la pression sur ces joueuses-là. Ça a pas plus marché. Donc du coup, ce qui explique ce deuxième carton. Et après, on est revenu sur un autre changement défensif qui cette fois était un peu plus efficace. Après, en face, elles étaient très à droite, notamment à 3 points et une adresse que nous, on n'a pas eu. Mais bon, ça, après, c'est pas.
Vous les aviez rencontrées en première phase?
Non, on les a jouées l'année dernière, mais pas cette année. Non. Alors, il y a des équipes qu'on a jouées en première phase. Je crois qu'il n'y a que Saint-Christol et Elat qu'on reçoit la semaine prochaine.
D'accord, Vergès, c'est bon ou vous auriez pu gagner
Je pense que.
Match retour.
Je pense que ça fait partie des matchs qui peuvent être gagnés au match retour.
T'arrives, tu les reçois avec de la Kézac, là, bim, Vergès, allez.
Ouais, c'est ça, ouais, c'est la même maison, tu sais.
C'est la maison mère.
Ouais, mais bon,
c'est
la maison mère.
Et donc là, c'est pareil, il faut à la fin qu'il y ait deux équipes derrière vous aussi.
Ouais, c'est ça. C'est ça,
j'avais le classement, je l'ai plus, je sais pas pourquoi.
Bah, tu sais,
c'est la première journée, donc.
Ouais, d'autant qu'il y avait un résultat qui était pas communiqué, là,
il y a deux équipes où il y avait
Saint-Christol,
0 points.
Saint-Christol, Conoche, ou Uzès, je pense.
De toute façon, là, vous allez vous maintenir, quand même.
Ouais, j'espère bien, c'est le but. Et, enfin, surtout, le but, c'est de pas attendre la dernière journée pour se maintenir, ça, c'est sûr.
Prochain match,
Luc. Alors, pour les filles, c'est contre Montpellier-Latte, samedi. Et les garçons jouent samedi aussi. Je ne sais plus contre qui.
Ici,
Montpellier-Latte, c'est le même club que
c'est l'équipe 3. Ouais.
Ah, c'est l'équipe 3.
Ouais, c'est la troisième équipe.
Que des jeunes, j'imagine. C'est des jeunes joueuses.
Ouais, c'est des jeunes joueuses. Elles ont une ou deux joueuses d'expérience, un peu plus âgées. Mais sinon, ouais, c'est que des jeunes et des jeunes qui sont au bon niveau, hein, parce qu'elles ont fait championnat de France moins de 16, je crois, ou quelque chose comme ça.
Et renseigne-toi pour les garçons, parce que si c'est Montpellier PTT, on vient avec Patrick et Laurent.
D'accord.
C'est voir ce samedi si c'est. Ok, il est 1h, on est toujours à la bourre, on n'a pas encore parlé de foot, on va parler maintenant de foot.
Bien,
oui.
Très bien.
Et ouais, obligé. Avec les matchs de la semaine dernière, déjà, il y a eu Coupe Gare-Lozère, donc ça, on va passer vite, pas de surprise. Marvejols se qualifie 2-1 à l'Anglade. La réserve de l'AFL se qualifie contre Monoblé 3-0. Alors ça va nous intéresser un peu plus. En match en retard, l'équipe 1 de l'AFL obtient match nul à Corbière, 2-2, en égalisant la dernière seconde par l'inévitable Fadil Gourmand sur coup franc et en terminant à 9. Alors, c'est un bon résultat au vu de la physionomie du match, mais un mauvais résultat quand on s'attendait à une victoire de l'AFL, quand même.
Quand tu dis terminant à 9, terminant les 30 dernières minutes, quand même.
Ouais.
En plus, les 30 dernières minutes.
Ouais, c'est pas les semaines dernières. Ouais.
Donc, Patrick, on est mitigé, parce que, au vu de la physionomie, c'est un bon résultat, mais avant le match, on s'est dit, allez, 3 points, quoi.
Tu as bien résumé la situation. C'est vrai que quand tu vois, quand on te raconte comment le match s'est passé, et tu égalises à la 95e, et tu joues à 9 contre 11, donc tu sautes de joie, c'est un exploit. Mais bon, c'est vrai qu'avant le match, tu joues contre un mal classé, donc tu pouvais espérer emporter la victoire. Et en plus, quand tu consultes après justement les résultats et que tu vois que Paulan a fait match nul, tu te dis, tu aurais pu prendre 2 points de plus par rapport à Paulan. Bon, après, on sait que ce championnat est compliqué avec des équipes qui veulent pas mourir. Hein. Donc Corbière, ils jouent leur survie NDH, hein, ils veulent pas descendre, donc. Il s'accroche.
Le coach de Corbière, un ancien joueur professionnel de Montpellier, qui disait après le match que même à 9 contre 11, c'est Mende qui dominait le match. Quoi.
Ouais,
c'est l'AFL qui a eu les occasions de revenir plus tôt, voire de dépasser. S'ils avaient égalisé un peu plus tôt, peut-être que ça serait passé. Mais ce qui est chouette, c'est que quand même à 9 contre 11, l'équipe est revenue.
Il faut quand même dire que 9 contre 11, bon, ça se voit quasiment jamais. Bon, après, on n'est pas là pour critiquer les arbitres, mais il faut quand même dire, je sais pas, quand tu arbitres de DH, que tu vois un match comme ça, tu, 9 contre 11, ouais, il faut équilibrer les choses, quoi. Voilà, non, comme tu dis, Ludo, c'est étrange. Mm. Bon, il y a quand même des choses, bon, on peut tout accepter en sport, il faut tout accepter, mais bon, voilà, quand tu termines un match en 9 contre 11, comme Laurent l'a dit, surtout les 30 dernières minutes, bon, après, si tu mets le deuxième rouge à la 96e, bon,
c'est, voilà, c'est deux cartons okay, jaunes. Mais,
ouais, deux fois deux cartons jaunes, au même joueur. Ouais,
ça fait
bon, à Almera, station centrale. Bon, c'est vrai, c'est bizarre, c'est étrange. Bon, là, tu peux te dire que tu, quand même, tu es tombé dans un guet-apens.
Ouais, surtout qu'on voit là Corbière qui a fait match nul 0-0 à Poussan. Mmh. Poussan qui est avant-dernier.
Voilà, qui est pas une grosse équipe non plus. Voilà.
Ouais, ouais. Par contre, quand tu dis ils essaient de sauver leur peau, ouais, ben, on voit bien ça. Corbière est 11e à 20 points et 12e Perpi 19, 13e Poussan 19, 14e Uzès 18. Donc, voilà. C'est vrai que ça se tient.
Ouais, ça tout se tient, à fait. Ouais. Les équipes d'Uzès qui est en pleine débandade d'ailleurs.
Ah oui, à
c'est
tout
pas l'équipe,
à
c'est
à
le club. Niveaux,
le club, enfin oui,
le club.
C'est très compliqué d'ailleurs pour eux. Je sais pas du tout comment ils vont repartir.
L'équipe une d'Uzès a encore perdu ce week-end contre la réserve de Marseille avec 2-0. Un but de Doria, le premier but de Marseille a été marqué par Doria. Et bon, il suffit d'aller sur le site internet de l'OM parce qu'il parle de toutes les équipes et en particulier ce CFA2 parce que la CFA2 de Marseille est première. Et donc tu verras que le gardien d'Uzès a fait un match encore meilleur que Ruffier contre Reims. Et sans ce gardien qui a fait peut-être 7 ou 8 arrêts, ils en prenaient un pour chacun. Donc c'est un club qui est complètement en débandade. Ouais, les deux équipes sont derrière.
D'ailleurs, il faudra se poser la question pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine, parce que je pense qu'ils vont même pas repartir en DH.
Ils
n'étaient pas sûrs de repartir là, déjà en mois de janvier.
Voilà, la première est en CFA2 et dernière, donc elle va descendre. Oui. Donc elle va descendre en DH. Et comme la réserve est en DH, la réserve est surcondamnée, puisque tu ne peux pas bien sûr avoir des équipes dans la même division. Donc voilà.
Faudra voir si Uzès Pont part ailleurs. Ils sont liquidation judiciaire.
On n'est pas dans l'instant sport du Gard là. On est dans le réserve.
Non, mais ça peut avoir une influence après pour la.
Pour revenir à l'AFL, le dernier match en décembre, j'ai justement été contre la réserve de Uzès. Donc Mann a gagné 5-0. Et donc la réserve d'Uzès est montée à 11 joueurs. Et donc d'entrée, quasiment dans les 10 premières minutes, il y a un joueur d'Uzès qui s'est blessé. Donc Uzès a fait toute la rencontre à 10. Donc voir ça en DH, bon, ça tu le vois. Énorme. Tu vois une équipe réserve qui évolue en deuxième division du district. Mais tu vois jamais ça en DH. Donc ça pour te prouver à quel point ils sont dans la panade.
Ce que je veux dire, c'est que ça peut avoir une influence, notamment pour la réserve de l'AFL. Si l'équipe d'Uzès ne descend pas en DHR, ça peut avoir des conséquences. Il faudra vérifier ça.
Allez, on revient à l'AFL, l'équipe 1. Donc on parlait de ce match nul. Donc ce match nul est d'autant plus dommageable que ce week-end, l'AFL est allé s'imposer à Perpignan 2-0. De Freitas, coup de boule à la 23e et Robert à la 65e. Ouais. L'AFL qui s'est bien ressaisi, Luc. Donc juste avant qu'on parle de ce match au classement, Paulan, Pézenas, un match de moins, 38 points. Mende, un match de moins, 34 points. Narbonne, 34 points. Après, c'est que les deux derniers qui ont match de moins.
Ouais.
Narbonne, 34. La Grande-Motte, 34. Aiguemort, 33. Ça se tient quand même. Hein. La 31. Perpignan, 29, etc. etc. Donc on est quand même second.
Non, mais c'est d'autant plus rageant qu'on a l'impression que Paulan est en train de marquer le pas parce que ça fait deux matchs nuls consécutifs.
Ils ont gagné là.
Ils ont gagné ce week-end.
Avec Mort. 0-0.
1-0.
Ah, j'avais vu 0-0, pardon.
Ils ont gagné 1-0.
Mais difficilement.
Si tu veux qu'on parle de ce match, voilà, il y a eu un match complètement hallucinant aussi. Paulan marque sur un penalty en première mi-temps et après il y a un carton rouge d'un gars de Paulan juste avant la mi-temps. Donc Paulan a joué toute la deuxième mi-temps à 10. Aiguemort a eu des occasions, mais alors à la pelle, on se demande encore comment ils n'ont pas fait pour marquer. Et puis à 5 minutes de la fin, pénalty pour Aiguemort, et bon, pénalty raté. Donc là aussi, c'est hyper rageant pour l'AFL.
Ouais, ok. L'impression donc, belle victoire quand même à Perpignan, où c'est dur d'aller gagner à Perpignan. La 2-0, il n'y a a priori rien à dire d'après les retours qui ont été faits dans la presse. Et donc, j'ai vraiment hâte de voir ce match à domicile contre Paulan. Et alors, je sais pas quand est-ce que c'est. En espérant
c'est un février, je crois.
Février. En espérant qu'il n'y ait pas plus d'écart.
En fait, il y a 4 points. Donc, si même si tu le gagnes, tu es toujours derrière.
Non, ça dépend. ça dépend, c'est 4 points la victoire.
Ouais, si mais tu... Poulain marque un point, quand tu perds, tu marques un point.
C'est 3 points, ah oui, pardon. Ouais. C'est 4
points. Oui, mais enfin, ouais. Il vaut mieux être derrière eux à 1 point.
À 1 point, oui, bien sûr.
Qu'à 4, quoi.
Moi, donc, on disait, on a mal débuté, 3 défaites déjà, etc. Et on regarde là, à moitié du championnat, on est quand même second, à 4 points du premier, non, mais là, un match de moins.
Là, hier, tu fais un truc extraordinaire, parce que bon, Perpignan aussi, tu as deux clubs de Perpignan, tu as dit le classement. Bon, tu as cité un Perpignan qui était en bas de tableau, mais c'est pas celui-là. C'est un autre, c'est un truc.
Septième,
Perpignan aussi, ils avaient perdu que deux matchs, soit autant que l'AFL avant hier.
Avec une équipe remaniée du fait des cartons rouges la semaine d'avant.
Tu avais les deux expulsés,
la défense était remaniée.
Voilà,
et des joueurs qui sont pas revenus, je crois qu'Alex Samba est toujours pas revenu.
Pas de retour.
Voilà. Et donc,
qui est quand même un atout offensif en plus.
Tu as cité les buteurs, et donc ça fait d'autant plus plaisir que ce soit De Freitas et Robert, parce que ces deux joueurs qui ont vraiment pas été épargnés par les soucis. Ils ont eu de graves blessures l'année dernière au genou avec les ligaments. Bon, Yohann Robert en plus. L'année d'avant, il était en Irlande, donc ça fait quasiment deux saisons blanches. Michael De Freitas, ça fait une saison blanche. Bon, ils reviennent, là, bon, c'est eux qui marquent, ils donnent la victoire, et on sent qu'ils reviennent petit à petit à leur niveau, et on sait que c'est vraiment deux joueurs clés de cet effectif, parce que, bon, Michael De Freitas, c'est le sang-froid, en défense, un gars d'expérience, comme tu dis, un leader de vestiaire.
C'est un peu le patron en défense aussi, qui rejaillit aussi... pour en discuter souvent, c'est vrai que les deux défenseurs, le défenseur central qui joue avec Mika De Freitas, c'est pas le même joueur quand Michael est là ou pas là, donc que ce soit Pierre Tessier ou Benjamin Almeras, c'est vrai que je pense que Michael De Freitas, sa présence leur apporte beaucoup.
Apporte déjà son expérience puisqu'il a joué en CFA à Aurillac, donc c'est bien qu'il retrouve un bon niveau. Et maintenant, il va falloir concrétiser. Cette victoire.
D'ailleurs, c'est le match en retard, je crois que c'est contre Perpignan-Bavernay, oui, hein, c'est l'autre équipe de Perpignan. Et là, effectivement, ce serait bien. Qui est 12e, ouais.
Ça serait bien aussi que Poulain ne gagne pas son match en retard.
Ouais, mais je crois que c'est contre Poussin.
C'est Poussin.
Le match n'est pas gagné.
Un mot sur la Coupe de France pour dire un bravo à nos amis d'Andrézieux qui se sont qualifiés, qui sont un petit poussé de cette Coupe de France.
Voilà, André Zou qui a passé contre
Saint-Priest, qui reprend le club de CFA,
qui gagne comme contre nous 2-0 et qui ont pas un super tirage quand même là
c'est un club du Nord-Pas-de-Calais.
Ils sont quand même pas vernis, hein, parce qu'arriver à ce niveau-là et tomber. Alors, contre un club de CFA, même si ça peut leur permettre de réaliser encore un exploit.
Ils jouent à l'extérieur ou...
Non, ils reçoivent.
Ça peut passer.
Et puis, lors du tirage, je crois qu'à la fin, il restait 5 clubs. Il y avait
Paris, à une boule près.
Il y avait du gros, et puis ils ont pas.
C'est les boules, ça.
Et d'ailleurs, le club contre qui ils jouent, donc c'est Croix, un club du Nord. Et donc, dans cette équipe du Nord, il y a leur frère de Debuchy qui joue à Arsenal.
Ouais, Debuchy qui s'est blessé ce week-end.
Debuchy qui jouera pas le week-end prochain, a priori.
Ouais. Mm. T'as eu des infos de ton ami d'Andrézieux pour savoir comment ça s'était passé? Quel état d'esprit
ils sont? Pas trop contacté, mais a priori, il est très content, quoi.
D'accord, très bien, super. DHR, 11e journée, dimanche. On l'a dit contre qui jouait l'AFL le week-end prochain, l'équipe 1?
Je crois qu'il n'y a pas de match.
Ouais. Il n'y a pas de match, d'accord.
Repos.
Comme ça, c'est réglé.
C'est un week-end de coupe, non, je crois.
Parce que, bon, Mende est éliminé à la Coupe de la Région, puisqu'ils ont perdu contre Brunel, je crois. Mais malheureusement, ils doivent jouer contre Perpignan-Bavernay. Et eux, Perpignan, un match de coupe, donc ils ne peuvent pas jouer ce match de championnat.
Ok, DHR, 11e journée, dimanche à Roufiac, la réserve de l'AFL retombe dans ses travers et perd face à la Lanterne Rouge de but à 1. Je ne sais pas quoi dire.
Donc, a priori, bonne première mi-temps côté AFL avec... qui est concrétisé à la 45e minute par Flo Baudin qui marque un but. Le match était, comme souvent on le pense, dans la poche. Et puis voilà, relâchement, deuxième mi-temps. Tout le monde respecte peut-être pas toutes les consignes défensives, peut-être. Un peu de relâchement. Et puis voilà, égalisation au bout de 5 minutes. Et comme tu dis, l'équipe retombe dans ses travers, ne joue pas, joue un peu moins bien et perd. Et au final, c'est vraiment une très grosse désillusion parce que l'équipe adverse était dernière ou quasiment dernière. C'était l'occasion vraiment de prendre des distances.
Elle était dernière, ouais.
Et c'est vraiment ralent, quoi.
Allez, en PHA aussi, Marvejol perd à Rodillan 1-0 sur un but casquette. Mmh. Donc voilà, c'est dommage.
C'est vrai que ça fait plusieurs semaines que j'ai dit que je crois en Marvejol, et c'est vrai que ben là, tu perds contre un club qui était derrière toi, et donc tu reviens au milieu de tableau, ça va être compliqué. Et, bon, c'est dommage, parce que tu parlais de la Coupe Garlosière du week-end précédent, ils avaient gagné à Langlade, et Langlade, ils jouent aussi en PHA dans la même division qu'eux, et bon, Langlade est second, donc le week-end avant en Coupe, tu gagnes chez le second, et puis là, en championnat, quand ça compte vraiment, ben, tu perds contre Rodillan, qui avant le match était avant-dernier, et donc voilà, c'est dommage, mais bon, ouais. Dommage pour Mavojo, parce dommage. Qu'il y a quand même un potentiel cette année dans cette équipe.
On va peut-être, parce qu'on n'en parle pas très souvent, parler du... Même si je crois qu'ils ne jouaient pas ce week-end en première division garlosaire, les équipes losériennes réalisent de bons résultats, et notamment l'équipe du Buisson.
Alors, ils ont joué ce week-end.
Ils ont joué, ouais,
le Buisson a concédé sa première défaite de la saison. À Anduze, je crois.
C'est vrai, là, contre la réserve d'Anduze.
Par contre, Badarou, qui était second, a gagné par forfait de l'adversaire. Donc on va Badarou qui rejoint quasiment le Buisson pour un mano à mano en haut du classement, donc c'est bien,
c'est pas mal.
Et
hein.
juste avant la trêve, il y avait eu justement le match au sommet entre Badarou et le Buisson,
le derby.
Terminé par un nul, un partout, et donc c'est deux équipes qui se bon voilà, on espère qu'elles vont rester en tête pour que qu'il y ait une de ces deux équipes qui monte en PHB l'année prochaine, ça soit une formidable récompense pour le foot lausannien, quoi.
Alors, je sais pas pourquoi, depuis le début de l'année, j'imagine que ce sont nos invités qui descendent les bouteilles de vin. Je vois qu'aujourd'hui, on n'en a pas, ça descend très vite, et on arrive à 13h14 sans avoir parlé de l'actualité nationale. Donc, on va en parler après cette petite pause musicale choisie par Laurent.
Allez mon petit bonhomme.
Allez Louis.
Allez mon petit bonhomme. Ouais.
Allez, avant de repartir sur l'actualité nationale et internationale, Laurent, on a oublié de citer le handball en Nord-Lozère.
Un petit mot sur le handball Nord-Lozère qui a gagné ce week-end. Alors chez les garçons contre Aurillac et chez les filles aussi contre Aurillac, deux belles victoires avec beaucoup de points d'écart, donc toujours bien classé au classement. Et voilà, bonne continuation au handball club de Nord-Lozère.
Et j'ai une petite précision, donc les garçons du basket Cosmandois joueront samedi à 21h contre Alès au gymnase du collège Saint-Privat.
D'accord, et les filles, c'est juste avant ?
Et les filles, c'est à 19h, toujours au même endroit.
Voilà, et si vous voulez retrouver vos animateurs préférés, peut-être qu'on sera pour le match des filles. Mmh. Les garçons, on attend les PTT pour aller les voir. Mmh. Hein. Ouais. Allez, actualité nationale et internationale, et l'actualité du jour, bien entendu, ce soir, l'élection du Ballon d'Or. Messi, Ronaldo, Neuer, Patrick.
Ben oui, il y a deux joueurs hors normes, des extraterrestres qui dominent le football mondial depuis plusieurs saisons. Mais bon, logiquement, ils se retrouvent chaque fois pour le Ballon d'Or. Alors après, j'ai quand même un certain âge maintenant, mais j'ai vu des joueurs qui m'ont quand même fait plus vibrer que Messi et Ronaldo, même si bon, c'est sûr ils sont dans la légende de ce sport.
Donc quand même pas génial.
Bon, voilà. Donc c'est pour ça que j'aimerais que ce soit finalement New York qui soit Ballon d'Or, même si c'est quasiment impossible vu le mode de classement et d'élection pour comptabiliser les points.
C'est ce qu'il faut préciser, voilà. C'est que depuis 3-4 ans le mode a changé et ce sont plus uniquement les journalistes mais également les joueurs, entraîneurs qui votent. Et depuis
même le public, une partie du voilà.
Que, voilà, en fait, qui en compte. Ce qu'il faut aussi savoir, c'est que depuis quelques années, c'est plus France Football qui est un peu maître de cérémonie et qui a les cartes à main.
C'est la Lozère Nouvelle.
Non, c'est la FIFA.
C'est la FIFA.
Ils ont signé un partenariat avec la FIFA et c'est donc.
Ils sont beaucoup plus riches que nous.
Ouais. Et c'est donc la FIFA qui a un peu la même mise sur l'organisation de tout ça.
C'est vrai que moi je suis mitigé parce qu'avant c'était le palmarès qui dictait le choix du Ballon d'Or, donc je le comprenais tout à fait. Maintenant c'est le joueur en tant que tel. Donc je suis partagé parce que je suis un peu d'accord sur le fait que ça doit être le meilleur joueur avant le palmarès qui soit récompensé. Mais d'un côté, là, ça fait 4 ans.
Quel intérêt d'avoir chaque année les deux mêmes joueurs qui vont marquer 50 buts par saison.
Quand on voit qu'il n'y a pas un Espagnol qui l'a gagné ces 4 dernières années, alors qu'ils ont tout remporté, qu'il y a des mecs comme Iniesta ou
après, quand tu vois les stats de Messi et de Ronaldo, bon, c'est vrai que c'est complètement hallucinant. Bon, il a joué 420 matchs, je crois, avec le Barça, il a marqué 50-70 buts, quasiment un but par match. On ne le reverra pas dans 30 ans.
Cette saison, Cristiano Ronaldo, sa Coupe du Monde.
Oui, on est d'accord.
Messi a perdu un final. Léo Messi. Non, mais Messi a perdu un final. Alors, en étant élu meilleur joueur, mais il a été.
Il a marqué un but, je crois.
Il a sauvé son équipe. Il fait pas une grosse Coupe du Monde. Ils font pas une saison. La saison.
Donc, si tu te bases sur la Coupe du Monde, c'est New York.
Non. Moi, je trouve quand même que il y a le gardien de l'équipe nationale d'Allemagne, champion du monde, et qui pour moi a été quasiment le meilleur joueur, c'est lui qui les sauve contre l'Algérie. Il fait une saison extraordinaire. Il a tout gagné cette saison, quasiment, que ce soit en club ou avec son équipe nationale. Moi, quelque part, ce serait bien que ce soit Manuel. En plus, un gardien, il y en a qu'un qui a gagné
le Ballon d'Or. Tout le monde est d'accord. On est pour Neuer, mais pronostic pas du cœur, mais de la raison. Patrick.
Ronaldo, parce qu'il a quand même fait une meilleure saison que Messi, donc je pense Ronaldo.
Luc,
Messi, parce que Ronaldo l'a gagné l'année dernière.
Alors moi je dis Ronaldo parce que je trouve meilleur que Messi sur le terrain. En fait, il produit plus de jeux, il défend, que Messi marche tout le match, il joue que les coups à fond, les attaques. Donc du coup, je trouve que Ronaldo est plus complet.
Je vais voter pour Neuer. Allez, comme ça, on change.
Je pense qu'on pourrait faire un système qui interdit au Ballon d'Or en titre d'être récompensé une deuxième année consécutive.
Mais non, ça veut rien dire.
Ou des choses comme ça. Ou de l'avoir qu'une seule fois. Il y a des prix qu'on ne peut avoir qu'une seule fois.
Allez, on va passer à la Ligue 1. On parle de pronostics. Alors, je vais vous lire
lesquels, un petit. Lesquels de prix?
Je ne sais pas, des trucs dans Miss le cinéma,
France.
Tout ça.
Miss France. Qu'une fois, Miss France.
Oui, Miss France.
Alors, avant de passer à la Ligue 1, je vais vous lire un SMS que j'ai reçu vendredi soir à peu près vers 19h54. Un SMS que j'ai envoyé à quelqu'un autour de cette table, j'ai dit on va pouvoir parler des défaites de l'OM contre Grenoble et Montpellier. 3-0 pour l'OM ce soir, note-le. Merci Laurent. Donc on va passer au résultat de...
J'avais vu 3 buts quand même.
J'avais vu 3 buts. 3 buts ouais. Alors Montpellier 2, Marseille 1, Bastia 4, Paris 2, Lille 1, Caen 0, Guingamp 2, Lens 0, Nice 3, Lorient 1, Evian, Thonon, Rennes, on s'en fiche, Reims-Saint-Etienne 2-1 pour Saint-Etienne, Nantes-Metz 0-0, Lyon 3, Toulouse 0, Monaco 0, Bordeaux 0.
Gros match.
Donc au classement, au classement, tout est chamboulé en 2015. On va parler des 5 premiers avec Lyon 42 points premier, Marseille 41 points, Saint-Etienne 39 troisième, Paris 38 quatrième, Monaco 33, il y a déjà un petit écart cinquième. Donc des faits notables, Patrick, sur cette journée de Ligue 1, cette nouvelle année 2015. 1, Marseille perd la tête du classement et 2, Paris descend à la 4ème place.
Oui, c'est ça la grosse surprise de cette journée. Bon, la première des matchs retour, c'est que Paris est 4ème. Donc, tu te rends compte, si ça se terminait, si on était à la 38ème journée, Paris ne ferait pas la Ligue des Champions. Bon, t'imagines le séisme, le cataclysme.
Cataclysme.
Voilà. Donc, le parc s'effondre, tout coule, et voilà. Donc c'est ça la vraie surprise. Après Marseille c'est vrai a perdu, Lyon est impressionnant, il faut le reconnaître aussi avec tous ces jeunes. On a même l'impression que voilà, même sans entraîneur ça fonctionnerait quand même, parce que c'est vrai que Fournier est arrivé, on peut pas dire qu'il a été transcendant puisqu'il a tout flingué d'André, il s'est fait reprendre par Gonalon devant la presse. Gonalon a dit qu'il faisait une préparation qui était indigne d'un club professionnel. Bon, et donc depuis il marche et avec le même entraîneur, et donc on a l'impression que c'est maintenant une équipe qui fonctionne toute seule, qui s'est fixé un objectif, qui est là depuis, qui se connaît depuis quasiment les 14 ou 15 ans. Voilà, donc ça fonctionne. Après tu me diras, quand il y a un gars qui marque 19 buts en 20 matchs. Bon, c'est un 20 journées, bon, voilà. C'est un plus. Ouais, ça fait du bien, ça fait du bien.
Faut pas qu'il se blesse.
Faut pas qu'il se blesse. Je suis pas d'accord parce qu'avec la même équipe, Garde a fait n'importe quoi l'an dernier, et avec la même équipe, Fournier est premier.
Je pense que c'est aussi une équipe qui avait, c'est bête à dire, mais ils avaient un an de moins, ils avaient pas la même expérience. Et là, je pense que notamment les jeunes ont pris beaucoup de confiance, et un peu plus d'expérience avec un Lacazette. L'année dernière, il y avait Gomis qui était là aussi. Et là, Lacazette, il est tout seul. C'est lui qui a les clés du camion en attaque. Et on voit qu'il est en pleine bourre en plus. Hein.
C'est vrai qu'avant leur match, ils peuvent passer premier. Il y a quand même une certaine forme de pression. On reçoit Toulouse. Toulouse qui peut faire. C'est un peu comme Montpellier qui fait des bons coups et des coups plus nuls. Et 3-0 au final, rien à dire. Quoi.
Après, au niveau de Marseille, si tu veux parler de Marseille, moi, le match de Grenoble, Bielsa a fait esprit d'être éliminé. Ça, tu ne m'enlèveras pas de l'idée. Bon, une composition, j'en suis persuadé. Une composition d'équipe de départ qui ressemblait à rien. Après des changements en cours de match, complètement hallucinant. Bon, Ayou, tu sais qu'Ayou va partir.
C'est pour cette fois qu'on l'aime, Patrick.
Voilà, non, mais tu sais qu'Ayou va partir à la CAN et tu le mets pas de titulaire. Et si tu le mets pas de titulaire, tu le laisses partir avec le Ghana, il fait ses matchs amicaux et voilà. Donc là, déjà, pour moi, c'est complètement ridicule. Tu fais sortir Gignac au bout de 60 minutes alors que tu es à 2-2, alors que Gignac a marqué 2 buts, tu sens qu'il est là, alors que contre Montpellier, c'est là par contre contre Montpellier, tu pouvais le faire sortir à 60e Gignac. Parce que là, tu sentais qu'il
pouvait. Tu sentais
qu'il pouvait pas marquer.
Alors je crois que contre Grenoble, il s'est un peu fait mal, il était un peu blessé. Ouais, c'est peut-être pour ça qu'il est sorti.
Ouais, c'est ce qui s'est dit. Bon.
Nous avons Marcelo Bielsa en ligne qui est en train d'appeler.
Mais bon, voilà. Donc pour moi, Bielsa a fait esprit de perdre en Coupe de France.
Je voudrais parler à Patrick.
Il sait qu'il ne peut pas faire 2 matchs par semaine. Donc voilà, il a bien compris. Donc il a fait en sorte que ça se termine comme ça. Et après, contre Montpellier, il y a des joueurs qui sont complètement depuis début de la saison. Bon, le Belge, par exemple, Batshuayi, qui a fait un match contre Lille, le dernier match en décembre, vraiment hallucinant, extraordinaire. Et puis aussi bien contre Grenoble que contre Montpellier, complètement dessous de tout. Bon, Payet, qui a eu ce problème avant la trêve, qui fait 2 matchs là, aussi bien à Grenoble que contre Montpellier, complètement... nullissime, et voilà, ça fait tout un tas de choses. Gignac qui rate cette occasion, s'il marque,
on gagne le match.
Ça change tout.
Vous n'avez pas tapé sur Gignac qui est le sauveur de l'OM.
Non, mais on ne tapait pas sur Gignac.
Ouais, mais là, on est passé en 2015 et depuis, il ne nous sauve plus du tout, quoi.
Montpellier a surclassé l'OM sur ce match.
Je pense que c'est plutôt l'OM qui a perdu ce match que Montpellier l'a gagné.
Il n'y a rien à dire.
Il y a quelque chose que j'ai du mal à comprendre avec le fonctionnement de Bielsa, c'est qu'il a des joueurs et, Enfin, il fait très très peu tourner. Et alors même si là, il n'a plus que le championnat.
Il peut pas là. Quand on monte plus, il peut pas là.
Il a Doria qui est arrivé pour 7 ou 8
millions.
C'est le
seul que tu peux dire, Doria.
Voilà.
Mais après, il peut pas. Patrick a raison. Ouais, il est limité.
Quand tu vois le bon coup, Montpellier, il va y faire.
Je parle pas du match de Montpellier, mais depuis le début de la saison, j'aimerais avoir les stats. Les mecs, ils ont des rythmes de jeu de folie. Ils peuvent pas tenir.
Après, tu vois le banc de Montpellier.
Là, il fait venir Boutoba qui a 16 ans. Alors, c'est très bien, le gamin, c'est super pour lui. Un gamin de 16 ans, il est sur le banc, il n'a que des joueurs de la réserve.
Le mercato n'a pas bougé encore à Marseille. J'espère que ces deux défaites permettront de voir qu'il y a un gros hic.
Alors voilà l'équipe du lendemain. Bielsa mérite des renforts.
Mais c'est bien résumé.
Parce que quand on voit milieu de terrain, le seul Imbula, quand on sait que milieu de terrain défensif, c'est un poste ingrat, où il faut quand même donner de l'avant et défendre aussi. Il est tout seul, le jeune homme. Alors, il peut avoir des qualités techniques, tout ce qu'on veut, et un abattage, mais il peut pas jouer tous les matchs à fond. Et tout repose sur lui. Donc, il faut absolument que l'OM recrute un joueur. Là, on a vu qu'il y avait Chérou, on n'a pas gardé Chérou, mais non. C'est une grosse bêtise, puisque Chérou nous aurait bien aidé.
On a vu que Fanny est sur le départ, visiblement, aussi, pour ce mercato.
Fanny est sur le départ, et Doria aussi, donc c'est pas possible.
Le problème, c'est qu'au bout d'un moment, c'est d'avoir ces joueurs-là qui, à force de ne pas jouer, Doria, si tu le fais jouer la semaine prochaine, qu'est-ce qu'il va faire? Il n'a pas joué un match de la saison.
On risque de perdre Nkoulou.
Il est parti, Nkoulou.
Ah, ça y est, il est parti. Donc du coup, Doria sera obligé de jouer.
Vous êtes en moins de 16 ans qui postule.
Calmez-vous. Vous êtes emballé de ce début de saison là. Marseille, sa place est 4e, 5e. Ça sera ça la fin de la saison.
Après, on peut continuer sur la Ligue 1, ce qui est beaucoup plus important.
On va parler de Paris. Laurent Blanc. Beaucoup que j'avais mis sous pression. Est-ce qu'il est déjà condamné? Moi, je pense que oui. Patrick, quand on discutait en off, il me disait non. On attend le match de Saint-Étienne.
Je pense qu'il faut pas qu'il se loupe. Mais
moi, mon avis, c'est déjà joué.
Moi, ce qui fait bizarre, c'est quand même, c'est que il annonce à la reprise qu'il a échangé son management, que maintenant fini les passes droits, etc. Résultat des courses, les mecs ils mènent 2-0 contre Bastia. Bastia qui était nullissime pendant la première demi-heure. Derrière, ils perdent 4-2 contre le 19e de Ligue 1 avec ce qui est censé
très
être.
Mauvaise attaque.
Ouais, ce qui est censé être en plus la meilleure charnière du monde, sa charnière centrale du monde. Non mais. Sur le papier.
Qui en a pris 7 en demi-finale contre l'Allemagne.
Non, parce qu'il y en avait un qui avait décidé que finalement ce serait con de jouer une demi-finale de Coupe du Monde et qui préférait prendre un jaune stupide pour le suspendre.
Oui, c'est vrai, pardon.
Thiago Silva, il avait pris un carton jaune. Oui, après un carton jaune idiot, là, une main ridicule.
Ah, d'accord. Donc, c'est une riche idée qui est arrivée, là.
Ouais. Et du coup, c'est plus ça qui inquiète. Le fait de voir que c'est apathique et la victoire contre Montpellier 3 jours avant en Coupe de France, et finalement, était que.
J'ai l'impression que l'histoire se répète pour Laurent Blanc, n'empêche. Entre son passage à Bordeaux, qui a été extraordinaire la première année où il est champion de France, la deuxième année, il est premier à la mi-saison, et puis après, c'est la cata, je crois, qui finissent. Au milieu de tableau, enfin le grand n'importe quoi. Après, en équipe de France, on sait très bien aussi que ça c'est pas super bien fini pour lui. La PSG, pareil, l'histoire se recommence. Il est champion de France et puis là cette année, il se passe rien.
Alors après, est-ce que les joueurs l'ont lâché?
Patrick.
Je pense que tu as raison. Le problème vient de Laurent Blanc. Bon, moi, Laurent Blanc, c'est un joueur qui m'a vraiment fait rêver. Un libéro comme ça, on n'en a pas vu avant et je pense qu'on n'est pas prêt d'en revoir. Bon, c'était un numéro 10 qui s'était recyclé les libéraux, donc voilà, il a des gestes de classe, des relances extraordinaires, il taclait jamais mais il était toujours présent. Donc il m'a fait rêver en tant que joueur, mais c'est vrai qu'en tant qu'entraîneur, bon, même avec les succès que tu as répété à l'instant, pour moi il m'a jamais fait vibrer. Et le problème quand tu veux être entraîneur d'un très gros club ou d'une sélection comme la France, il faut quand même avoir, je sais pas, un certain charisme, voilà. Et moi, pour moi, Laurent Blanc, il avait du charisme en tant que joueur, j'en suis persuadé, mais en tant qu'entraîneur, il lui manque cette chose qui lui permet aux stars, tu vois, de prendre le
dessus sur les stars. De se sublimer pour lui. Je suis d'accord avec Patrick.
Et tu le vois dans son discours d'après-match, il dit pas, on n'a pas respecté Paris, tout à tout. Il dit, Paris n'a pas respecté Baxia. Tu vois, il y a un problème, quoi. Il doit dire, on n'a pas respecté, on a fait, ou je vais, ouais. Il dit jamais ça. Il dit toujours, le club, Paris Saint-Germain, mes dirigeants, Lavezzi, Cavani, tout ça, tout.
Voilà, Laurent Julien.
Voilà, ça saoule un peu, quoi. Ça saoule un peu. Ça doit fatiguer un peu ceux qui vivent avec lui.
Allez, on se dépêche, on est vraiment à la bourre. Un mot sur le championnat d'Italie. Pourquoi le championnat d'Italie alors qu'on n'en parle jamais? Parce que ce week-end, il y avait le derby de Rome. Je pense qu'il faut rendre hommage à un homme. 2-0 à la mi-temps pour Lazio. Au final, 2-2.
Tu as vu ce qu'il a fait? Ouais. Non, mais est-ce que tu as vu ce qu'il a fait après le but? C'est du jamais vu. Il est allé récupérer son iPhone. Et donc il s'est pris en photo, il était sur le terrain et derrière lui il y avait donc la fameuse corde à sud, les supporters les plus chauds de l'AS Rome, et donc il s'est fait une selfie avec les supporters qui hurlaient derrière son nom, et voilà, donc il était sur le terrain, bon, l'arbitre je crois il a mis un carton jaune, mais bon voilà, c'est jamais vu, c'est du Totti, et c'est vrai que c'est un joueur pour moi exceptionnel.
Laurent l'a fait à Mérues.
Ouais. Moi je joue toujours avec mon portable aussi.
Donc. Dans le protège tibia, ce qui fait que le portable est un peu abîmé, mais...
Voilà, mais il faut le dire, Totti, quand même, 38 ans ou je sais pas quel âge.
Un seul club.
Et débutant. C'est
un joueur extraordinaire. Je pense qu'il fait la pluie et le beau temps à la Roma en plus. Et
extraordinaire, ouais, c'est ça. Vite fait, on voulait parler de la CAN, on en parlera la semaine prochaine. Ça vient juste de débuter, on n'a pas le temps.
Non, ça débute la semaine prochaine d'ailleurs.
C'est pour ça qu'on en parlera la semaine prochaine.
Ce week-end.
Exactement.
Ouais, ce week-end.
Ça débute ce week-end.
Handball, vite fait, là, il y a le championnat du monde qui va débuter. Tournoi de préparation contre Nantes, on gagne la Macédoine 30-20 après avoir battu l'Argentine. Luc.
Oui, bah juste puisque tu parles de l'Argentine, juste un petit clin d'œil à David Degouy qui est l'ancien directeur du centre Omnisport de Lozère et qui après avoir gagné les Jeux Panaméricains en étant dans le staff de l'équipe d'Argentine et après être passé par l'équipe féminine américaine, le tout en étant sur la voie de la montée avec son équipe d'Ivry. Était avec l'équipe argentine pour ce tournoi de préparation et il espère pouvoir les accompagner au Qatar pour les champions du monde.
Ouais. Très bien. Il a pris sa tôle contre la France. Mais la France, on peut être champion du monde, Patrick?
Ouais, bien sûr, sans problème. On a un tel réservoir de joueurs. Ce qui est hallucinant avec cette équipe de France de hand, c'est que dès qu'il y a un joueur qui est un peu moins bien ou qui prend sa retraite ou qui est blessé,
il y en
a un, deux ou trois qui surgissent. Il y a un tel réservoir de joueurs de top niveau. Voilà, ça fait rêver et en plus ils ont la faculté de recycler ces anciens joueurs dans le staff et là on voit Didier Dinard qui a été certainement le meilleur défenseur au monde
plus, pendant tous les temps.
Je pense qu'il n'y a jamais eu un défenseur aussi fort. Et ben voilà, il a commencé petitement, au début il portait haut et après il coupait les citrons, après il s'occupait un peu de défense et maintenant c'est quasiment l'adjoint d'Onesta et après on peut même imaginer qu'il va remplacer Onesta. Et donc ça, je trouve que c'est vraiment très intelligent de savoir recycler ces grands joueurs dans le staff et de les faire gravir les échelons petit à petit.
Laurent.
Ouais, David Degouy qui revient régulièrement, on sait qu'il a des attaches sur Mende. Peut-être ça serait sympa de lui lancer une invitation. Alors, je pense qu'aujourd'hui il nous écoute pas.
Non,
mais,
je crois pas.
Mais non, il serait bien qu'il vienne nous raconter son histoire un petit peu, son expérience.
C'est vrai qu'on pourrait l'inviter.
Ça risque d'être un peu compliqué. S'il fait champion du monde, mais s'il fait pas les champions du monde, vu qu'il y a une trêve en championnat de France, ça peut être.
Ouais, on le connaît bien, David. Il sera ravi de venir.
Ouais, je pense.
L'invitation est lancée.
Voilà, allez, je voulais parler au rugby, mais on n'a pas le temps. On va te dire juste un mot en ski, biathlon, la démonstration de Martin Fourcade, le numéro 1 mondial français, qui a fait hier une démonstration de force sur le parcours d'Oberhof.
Est-ce que tu as vu ce qu'il a fait?
20/20 au tir.
Non, est-ce que tu as vu le dernier tir de groupe?
Il a fait un selfie.
Attends.
Non, il a fait un selfie dans la courbe sud.
Il a pas eu le temps. Donc, dernier tir debout, il a une avance déjà colossale, donc il a déjà une course gagnée. Il arrive sur le pas de tir. Donc c'était en Allemagne, 20 000 personnes derrière son dos, qui gueulent, tout ça, et puis des rafales de vent, j'ai jamais vu ça, même la neige était emportée, donc il est obligé d'attendre, parce qu'il se dit, si je tire, je vais, voilà, et donc il en principe, tu tires en 30 secondes, et donc là, pour tirer les 5 balles, il a mis plus d'une minute, et donc au moment, il lui reste encore deux tirs, donc il a réussi les trois premiers, il lui reste encore deux tirs, et donc tu vois les poursuivants qui sont déjà, ils ont déjà commencé, eux, à tirer. Donc, s'il rate une des deux, il a quasiment une course perdue. Et donc, il prend encore son temps, tout. Même, tu vois, les commentateurs, plus personne ne parle. Parce qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il fait? C'est n'importe quoi. Une erreur monumentale. Tout le monde est en train de se dire ça. Et puis, hop, il reprend même sa respiration, ce qui est du jamais vu dans ce sport. Et il a quand même réussi à mettre les deux balles. Donc, il fait 20 sur 20 et il repart. Et donc, voilà, il fait comme ça. Il sait qu'il a gagné. Et donc, bon, c'est un champion hors norme. Il est fabuleux. C'est vrai qu'il fait rêver. Ouais. On voit ça sur Eurosport. C'est confidentiel. C'est un sport confidentiel. Mais je vous conseille franchement de voir ces courses de biathlon parce que vraiment, il y a un suspense. C'est vraiment génial.
Ouais, il faut suivre le ski un peu. C'est vrai qu'on est très très bon en ski dans certains domaines, dans le biathlon.
Mais dans d'autres moins.
Et dans d'autres moins. Et ouais, mais c'est ça la vie, c'est ça le sport. Hein.
C'est comme ça.
Allez, merci les gars d'être restés avec nous pour cette première émission de l'année. On se retrouve dans 2 semaines. On va essayer d'avoir un invité, quoique, est-ce qu'on en a besoin 1h37? On n'a pas le temps de tout parler. On fait que parler dans cette émission.
On est on fire.
La semaine prochaine, ouais. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit dans 2 semaines? Ouais, voilà. Non, je pense pas. Tu réécouteras les bandes, je pense.
Si, j'ai dit 2 semaines.
On fait pas de paris, de trucs comme ça, non?
Qu'est-ce qu'il y a comme prono? Si, on a fait le ballon d'or.
Ah oui, c'est vrai.
Neuer, Ronaldo, t'as dit Messi, voilà, personne n'a dit Ribéry, c'est bon.
Non.
On est bon alors.
Et d'ailleurs, si on faut faire un petit truc sur Charlie Hebdo, il y a eu quand même une caricature un jour de Ribéry au moment des quotas. Et donc ils mettent, le football français veut des quotas, et c'est un dessin de Ribéry, et Ribéry qui dit, nous on veut plus de putes.
Voilà.
Il y a une photo qui passe aussi où il dit je être Charlie,
je avec être
une
Charlie.
C'est très drôle.
Bon, nous on dira juste je suis Charlie alors.
Ouais, on dit juste je suis Charlie, on dit salut Charlie. À Ribéry, on dit salut à l'AFL, à l'équipe numéro 3 avec sa star Laurent Julien qu'on retrouve dès la semaine prochaine avec un invité. Ciao.
Les Leslie John au couloir en numéro 2, allez Leslie, c'est parti pour Leslie John.
La performance de Jean-Baptiste Grange.
Je ne dis rien dans ma tête, je ne dis rien.